France Inter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui a longtemps cru qu'il deviendrait Bruce Willis, Mel Gibson ou un clown de cirque. Finalement, il est devenu Jérémy Nadeau et c'est presque mieux. Avec beaucoup trop de spectacles joués partout en France et bientôt à l'Olympia le 3 janvier, Jérémy explore l'enfance, la masculinité, la vulnérabilité, les parents divorcés et même un père qui soulève des voitures. On l'a découvert sur YouTube avec des vidéos cultes, puis dans les séries Cœur Noir et Fury où il est passé de fan de Call of Duty à vrai entraînement avec les forces spéciales et entre deux tournées, il a même sorti un album, PTP. Oui, Jérémy Nadeau, c'est un mélange rare, le clown, le soldat, le comédien, le fils, le stand-upper. On va raconter son parcours ensemble jusque 23h. Jérémy Nadeau est avec nous, à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
J'aime bien mon prénom, c'est facile à porter, Jérémy, comme prénom. Pour les enfants, pour les adultes, c'est facile. Je dis ça parce que j'ai un pote, il vient d'avoir une fille, là. Et il l'a appelé Mireille. C'est le prénom de sa grand-mère. Le prénom aurait dû mourir avec la grand-mère, frérot, je te jure. Mireille, elle a fait caca. C'est une phrase d'EHPAD, pas de crèche, normalement. Je voulais, je vais chercher Mireille à l'école. Non, Mireille, tu vas la chercher autour de la maison de retraite parce qu'elle s'est encore enfuie. Elle a pas mis de culotte, Mireille. Tout le voisinage en a marre de l'avoir à poil, Mireille. Elle a les seins qui tapent les cuisses, le cul sur les mollets. Les enfants du quartier sont terrorisés par Mireille. Je vais changer la couche de Mireille, elle fait 14 kilos la couche de Mireille. Parce qu'elle a le colon qui fuit la coquine. On sait pas s'il faut un plombier ou un pompier. Mireille. C'est quoi ce prénom de la Seconde Guerre mondiale là? Vous savez que normalement le prénom complet c'est Mireille, cachez-vous, les Allemands arrivent. Tu vois? Mireille.
Jérémy.
Ouais.
Comment ça va?
Ça va bien. C'est quoi cette intro de fou que tu m'as fait là? J'ai l'impression qu'après tu me demandes en mariage normalement là. Ou peut-être je te demande en mariage.
T'es ok?
Moi je suis ok.
Bon, let's go. Alors, mais c'est une fin d'émission.
Mais à la régulière. Par rapport au titre de l'émission.
Ouais, j'avais compris, ouais, okay. Bien sûr. Tu sais que c'est en référence à un morceau aussi d'un rappeur?
À la régulière.
Allez, donc. Tu es là car il y a ce spectacle, donc beaucoup trop.
Ouais.
L'Olympia le 3 janvier, très très prochainement. Qu'est-ce que ça fait pour toi là d'être un peu à la fin de cette tournée, de voir peut-être la fin du coup de ce spectacle qui a été aussi un grand changement pour toi, une nouvelle étape dans ta carrière? Comment tu te sens là?
Et c'est marrant parce que tu m'aurais posé la question il y a genre 6 mois, 1 an, je t'aurais dit oh, c'est juste la fin d'un truc, on passe à autre chose. Et en fait, ça commence à me faire un petit truc.
Ouais.
Je commence à ressentir que c'est la dernière fois que je suis en train de jouer ces blagues.
Ouais.
Et ça me fait un petit truc d'émotion en fait, je vais dire au revoir à mon bébé, tu vois.
Ouais, ouais.
Et après, il va vivre ailleurs évidemment parce qu'on l'a filmé et on va le
bien
diffuser.
Sûr.
Mais ouais, ça fait un petit truc, c'est un peu émouvant et je suis content d'aller ailleurs après, tu vois. Mais ça fait ça pique un petit peu.
Je l'ai dit un peu en intro, beaucoup de personnes te connaissaient d'abord, t'ont connu sur Internet, sur YouTube. À quel moment, toi, t'as amorcé cette orientation de carrière, tu fais ce choix professionnel presque d'aller vers la scène justement et de commencer à aller vraiment sur autre chose, d'écrire un format qui est différent, un spectacle. Alors évidemment c'est du stand-up mais il y a aussi des personnages, enfin, il y a quelque chose qui est aussi très écrit dans ce spectacle que j'ai eu la chance de voir. À quel moment t'as décidé de bifurquer vers ça, toi?
En fait moi j'ai commencé par le théâtre à la base, j'ai commencé par le théâtre bien avant les vidéos, etc.
Ouais.
J'ai commencé par le théâtre et j'avais arrêté le théâtre pour me concentrer sur mes études. À l'époque, et en fait ça me manquait
d'être sur la scène.
D'être sur la scène, et en fait ça me manquait d'abord de faire des blagues, et donc en fait j'ai commencé les vidéos YouTube à ce moment-là. Et YouTube, Internet, le digital, les chiffres, les commentaires, les trucs, normalement j'avais besoin de ce côté humain qu'il n'y avait plus en fait là-dedans. Tu vois.
C'est fou, pardon de te couper, mais il y a tellement de personnes...
C'est la dernière fois, par contre, que tu me
Il y a tellement de personnes sur YouTube qui racontent ça, la pression des chiffres, tu sais, à quel point ça rend fou quand tu commences à avoir du succès, et comment c'est compliqué en fait de gérer ça, en
ouais,
fait, parce que ça te rend dingue.
Et puis ça peut vite rendre fou quand t'es trop collé sur les chiffres, trop collé sur les commentaires, les likes, les partages, etc.
Ouais.
Et en fait, au-delà de ça, en fait, tout devient un peu automatique, un peu faux, tu vois, un peu ce truc de je sais plus vraiment ce que ça veut dire, est-ce que c'est 1 million, est-ce que c'est 10 millions, est-ce que c'est... Tu vois, ça n'a pas la même saveur qu'au début, quand tu découvres, tu te lasses un peu de ce truc et tu ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, alors que des gens qui sont en face de toi et qui te regardent dans les yeux et qui rigolent à tes blagues, ou qui rigolent pas d'ailleurs, quand tu testes des nouveaux trucs, etc., Ça, c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai qu'être sur scène. Et souvent, on me dit, qu'est-ce que tu choisirais entre le stand-up ou le cinéma ou les trucs. C'est compliqué de choisir parce que c'est deux choses très différentes qui sont complémentaires aussi. Mais ouais, être sur scène, c'est des sensations qui sont incomparables. C'est comme un artiste qui fait que des albums en studio et qui fait pas de scène, et à un moment il découvre la scène, il peut ne pas aimer ça, mais potentiellement t'as un truc de wow, en fait les gens réagissent en direct et c'est fou.
Quand tu fais des vidéos sur YouTube et que tu décides de passer justement à la scène, d'écrire un spectacle, est-ce que t'as des influences à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des gens que tu regardes depuis tout petit? Je crois que c'est le cas, mais est-ce que tu te replonges là-dedans justement pour c'est un nouveau métier en
c'est
fait.
Surtout ma mère qui me menace en me disant si tu commences pas le stand-up je te quitte, je te viens de la maison.
Ah c'est vrai?
Non, c'est pas vrai.
Mais ça aurait pu. Elle aurait pu vouloir que tu accomplisses ta destinée.
Mon enfant, il a toujours voulu accomplir ses rêves, hein, donc je l'ai un peu forcé. Non, pas du tout. Moi, mes influences de l'époque, en tout cas d'humoriste, c'était notamment un humoriste québécois que je cite tout le temps, qui s'appelle Michel Courtemanche.
Bah, je suis très heureux que tu le cites. Parce que c'est quelqu'un dont on parle peu.
Ouais, parce qu'il est très peu connu en France.
Il a été très connu dans les années 90, en fait. Et c'est vrai que maintenant, son nom est un peu plus désuet, mais il était super important.
Mais je ferai en sorte qu'on s'en rappelle.
Ouais.
Et ça a été un exemple sur plein de choses. C'est avec lui que j'ai découvert l'humour sur scène, bien avant de découvrir à l'époque Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, etc. Ouais. En fait, j'ai découvert Courtemanche avant de découvrir Likaku, par exemple, tu vois.
Ouais, ouais.
Et en fait, il avait ce truc d'expression corporelle, de grimace un peu, de mime, de... Il avait des sketchs complètement muets, en fait. Il avait deux, trois mots, parfois, dans certains sketchs, mais... Et ouais, ça a été ma référence pendant des années.
Est-ce que c'est de là aussi que toi, on va dire, t'as gardé aussi une forme de gestuelle qui t'est propre sur scène? Tu joues aussi avec ton corps, etc. Est-ce que c'est... On va dire presque une référence directe à quelqu'un comme Courtemanche.
Ça a été, je pense, je peux pas dire un hommage parce que je me suis pas en train de dire je fais ça parce que
j'adore Courtemanche. Non, et puis le spectacle n'a rien à voir,
mais c'est vrai qu'il y a cette corporalité que j'aime bien en fait et qui moi m'amuse. En fait, moi c'est la raison principale pour laquelle je fais ça aussi, c'est hyper égoïste.
Ouais.
C'est que ça m'amuse d'être sur scène, ça m'amuse de comme tu dis de jouer un peu avec mon corps, de jouer avec le micro, de jouer avec des trucs et d'être hyper énergique sur scène parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être et c'est ce qui me permet de m'exprimer de la meilleure manière possible, tu vois.
Alors, tu racontes un peu deux rêves d'enfant. Il y avait monter sur scène et devenir un bonhomme,
un homme
comme
parfait.
Bruce Willis.
Ouais.
Est-ce que ce spectacle, c'est la réconciliation de ces deux rêves d'enfant?
Il y en a un que j'ai réussi.
Monter sur scène.
Spoil. Indice, je suis sur scène. Et en fait, moi, je voulais être un homme parfait quand j'étais petit.
Ouais.
Parce que,
c'est tout un sujet du spectacle.
C'est tout un sujet du spectacle. C'est le sujet principal parce que moi, je pensais que... En fait, quand on cite les films de l'époque, évidemment... on en parlait juste avant l'interview, c'est pas des mecs parfaits. Tu prends Bruce Willis dans Die Hard, c'est un papa séparé, c'est pas forcément un bon père.
Il a des problèmes avec l'alcool.
Etc.
Exactement.
Mais en fait, on te fixe dans ta tête une image de mecs qui sont tout le temps courageux, qui n'ont jamais peur de rien, qui sont... Et du coup, en fait, moi j'avais ce truc de, en fait, c'est ça être parfait.
C'est ça être un homme.
Et c'est ça être un homme.
Ouais.
Et pour être un homme, il faut être un homme parfait, tu vois. Et j'ai grandi avec cette image-là. Et en fait, au fur et à mesure des années, quand je découvre que, par exemple, il se passe ça et j'ai un peu peur, ou là, j'ai pas de solution, ou là, j'ai pas envie de me battre, ou là, il y a une embrouille et je me fais un peu secouer dans tous les sens, etc. Je suis là, mais en fait, je suis peut-être pas un homme, en fait, tu vois. Et du coup, c'est ce questionnement de qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, en fait. Et être un homme, c'est pas forcément ne jamais avoir peur, etc. C'est être conscient aussi de tes faiblesses et pas se dire hey, je suis comme ça et c'est terminé. C'est juste j'ai pas ça, comment je fais pour avancer et être le meilleur humain possible, tu vois.
Et c'est intéressant parce que ces espèces de projections de ce qu'est un homme parfait, tu les déployes aussi même sur ton papa, parce que tu dis que ton père c'était Denzel Washington dans ta tête et qu'en fait oui, parce que Denzel aussi, j'imagine qu'il n'est pas tout le temps sans peur et sans reproche. Il y a ça aussi qui est, dont tu parles.
C'est mon père qui me fait découvrir Denzel.
Ouais.
Peut-être pour me dire, regarde ce que t'as à la maison, tu vois. Mais mon père, j'en parle. Mon père, ça a été mon exemple pendant des années. Et mon père, il était fort quand j'étais petit, tu vois, il était très fort. Et je le dis dans le spectacle, c'est vrai. Je l'ai vu un jour, j'étais jeune, soulever une voiture. Petite, certes, mais voiture néanmoins.
Ouais.
Et il l'a... Il avait des gants dans le coffre de la voiture. Je pense qu'il a attendu ce moment-là toute sa vie, tu vois. Et il a soulevé l'arrière de la voiture pour la décaler parce qu'il nous manquait genre 20 cm pour sortir d'un parking. Et il a vraiment soulevé les roues arrière et décalé la voiture. C'était sûrement une très petite voiture.
Oui, mais toi, dans ta tête, ça t'a marqué.
Moi, je vois mon père soulever une voiture. Et je dis, comment tu veux que je grandisse avec l'image que l'homme, c'est un truc normal, alors que mon père soulever une Gova, tu vois.
À quel moment t'as compris que la vulnérabilité, justement, ça faisait aussi partie de la masculinité, que tu avais le droit d'être vulnérable. Ben, à quel moment tu l'as compris, ça ?
Je l'ai compris, je pense, à travers des œuvres fictionnelles qui mettent ça aussi en avant. J'en ai pas forcément en tête, mais forcément, c'est les meilleurs moyens de passer un message. L'artistique, c'est l'art, entre guillemets, c'est un bon moyen de passer des... On le sait, hein, de passer des messages. Et je pense qu'il y a des mecs qui sont attelés à cette tâche en disant... les gars, vous n'êtes pas forcément obligés d'être hyper costaud, d'être hyper courageux tout le temps, d'être des bonhommes au sens un peu vulgaire du terme. Comme quand on dit « cette femme, c'est un vrai bonhomme ». Les gars, moi, je peux vous citer un million de femmes qui sont plus courageuses et plus fortes que certains hommes, tu vois.
Ouais.
Et je pense que je l'ai compris aussi tout seul. Moi, j'ai fait une longue thérapie sur plusieurs années.
4 ans, c'est ce que tu...
4 ans à peu près, ouais, pour régler plein de choses. Pas forcément des trucs qui n'allaient pas, mais des trucs que je ne comprenais pas, en tout cas, tu vois. Et je pense que c'est aussi bénéfique de commencer une thérapie quand ça va bien. En disant, est-ce que je peux comprendre des choses ? Comme j'ai dit, dans un couple, tu lances jamais une discussion sérieuse et profonde sur une embrouille. Il faut lancer quand tout va bien et qu'on sait qu'on va avancer dans la même direction. Tu vois. Et je pense que je l'ai compris aussi tout seul. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que cette réflexion, elle est importante et même vitale pour un homme. Tu vois.
C'est intéressant que tu parles de ça, en tout cas, parce que nous avions dans l'émission lundi, nous avions Sébastien Tellier, on parlait justement de ça, de lui aussi, comment il a grandi avec des figures masculines comme Schwarzenegger, comme Stallone, enfin, les mêmes que toi, finalement. Et puis finalement, aujourd'hui, il a un peu déconstruit ça. Et on parlait justement notamment d'un artiste que tu parlais de l'art, notamment quelqu'un comme Kid Cudi, qui, à la fin des années 2000, a aussi fait partie de ces gens qui ont ramené de la vulnérabilité, ont montré aussi d'autres formes de modèles masculins. Et en parlant de musique et d'artistes qui, je pense, a pu être influencé par quelqu'un comme Kid Cudi, je propose qu'on écoute un morceau de Yanis, un rappeur français extrêmement talentueux qui a sorti un projet qui s'appelle DND, et on s'écoute tout de suite le morceau Radio Cotonou.
Je fais des sous pour aller où, je suis sous panier, aller où. Tiens nos têtes si t'as les couilles, tiens le max si t'as les housses. Dans le canap', je suis calé sous canage, j'ai calé tout. En se face des bouffons qui rentrent pas les coups. Je suis à Paname, à Milan, des zéros sur le bilan. 5 euglots, ma boca, je fais des sous en tirant. Une voix comme un tyran, je me vois tant, ça me tirante. Je pleure à ceux qui vont, et surtout quand ils mangent. Surtout quand ils mangent, surtout quand ils mangent. Tous ces MC ménopausés font croire qu'ils ont encore des gosses. Allez, ferme ta gueule et laisse mes négros poser. Nouveau sac pour madame, je suis à côté du 16. Je peux plus rapper banal, faut la beauté du geste. Cette merde, j'en rêvais quand j'étais tout skinny. Quand j'avais que là dans les bras, je laisse zéro gambas traîner dans mes fettuccini. On commence ces chiens traîner dans mes pattes. Y'a de quoi fumer dans mes packs. À quoi de fumer dans les packs. Sauf d'autres à la Fnac. Les TCD qui traînaient dans les bacs. Ce soir pour le dîner, je suis sous Limoncello weed. Je me roule le cigare dans Chelotti, mais je me financerai pas ni un VVS. Si son BBL, je peux monter d'au moins 10 vitesses selon BPM Renoir. Selon BPM Renoir. Tu veux la qualité, c'est nous la qualité. Première ce plat en restant chill pour fouetter la. Pour fouetter la prod, j'sens même pas les deux mains de la veste en jean. J'fume un gros J, la moula me fait cogiter. Maman elle me dit que j'suis un prodige, qui me voit comme un produit. Et si en ma tête au JT, viens pas faire crarité mon brody. Crarité mon brody, toi, viens pas me raconter trop d'histoires. La micelle est bougie, mon joint c'est une bougie. J'parle qu'à mon chromie le soir. J'ai tellement de sons meilleurs des tiens qui vont jamais sortir. Et tu le sais très bien, pour ça que tu viens gratter comme des sorties. J'apprécie si le caramas est ouvert. J'passe à l'épice si le gazin est ouvert. À Paname c'est Prada, au bled j'ai mon bazin. Dans le jardin mon bassin, dans le salon mes couverts. J'suis découvert en argent pour manger mon grec. En voiture et pour ranger mon break. J'suis découvert en argent pour manger mon grec. En voiture et pour ranger mon break. J'suis découvert en argent pour manger mon grec. En voiture et pour ranger mon break. Manger mon grec. En voiture et pour ranger mon break. Yeah.
C'était Radio Cotonou, donc du rappeur français Yanis.
C'est chaud, ça,
de son projet. C'est très chaud.
C'est bien. Hein.
Très, très, j'aime beaucoup. J'adore ce morceau. Et c'est extrait du projet DND.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Jérémy.
C'est ma
dernière
qui a fait la voix.
Ouais, exactement, ouais. C'est vrai, bah, on est très proches. Alors, Jérémy, on va continuer à parler de toi et on parlait un petit peu de ce qu'était la virilité pour toi. Je te propose des situations, tu me dis si selon toi c'est être un bonhomme ou pas.
Ok.
Pleurer devant Interstellar.
C'est pas être un bonhomme, mais c'est grave ok. Parce que j'ai tellement pleuré devant Interstellar, c'est mon film préféré.
C'est pour ça que. Et c'est intéressant que tu le dises, puisqu'en plus, Alors, t'es sûrement sur les réseaux comme tout le monde. T'as peut-être vu l'émergence de quelqu'un d'ailleurs qu'on va recevoir bientôt dans l'émission, c'est Régé de Gorilla, tu sais, qui réagit aux avis des gens et qui est très dur avec Interstellar, même s'il reconnaît que c'est un très bon film. Et moi, j'adore aussi Interstellar. C'est un film que t'as beaucoup, que tu revois beaucoup, ça ?
Ouais, que je revois régulièrement. Je pourrais pas dire régulièrement. Ouais. Parce qu'il est quand même assez lourd, ce film, à tous les niveaux.
Ouais, ouais.
Mais ouais, c'est un film qui est sublime sur tous les points. Qui est juste avant Premier Contact.
J'adore Premier Contact.
Qui est exceptionnel.
Film de science-fiction extraordinaire. Avec Amy Adams et Jeremy Renner. Et de Denis Villeneuve, si je dis pas
de bêtises. Et Forest Whitaker. Et de Denis Villeneuve, exactement. Ouais, ouais. Qui est mon réalisateur préféré.
Bouleversant.
Ouais.
T'as aimé Les Dunes ?
J'ai adoré Les Dunes. J'ai pas vu les originaux.
Bon, il y en a qu'un.
Enfin, l'original, j'ai pas lu les livres.
Pareil.
Mais Dune 2, pour moi, c'est potentiellement un des meilleurs films de ces 10 dernières années.
Qu'il y a des... Visuellement, moi, je pense que j'ai préféré le 1, mais j'adore le 2. Mais il y a des scènes dans le 2, visuellement, c'est extraordinaire.
Quand les soldats, tout le passage à Harkonnen, tout en noir et blanc et tout, ouais. Genre, c'est fou. Et le passage où les espèces de soldats se mettent à voler, et tu te dis...
Non, visuellement, quoi,
c'est fou. C'est incroyable. Bref, tout est beau. La BO est incroyable, Hans Zimmer, évidemment.
Hans Zimmer. Que t'aimes beaucoup, je crois que t'es aussi fan d'Hans Zimmer.
Alors lui m'aime beaucoup surtout. Moi je connais très peu son œuvre, mais.
Alors, est-ce que c'est ok de dire je t'aime à un pote ?
Bien sûr, moi je dis je t'aime à mes potes de ouf.
Ouais.
Et après, t'es pas obligé de dire je t'aime, mais tu peux leur montrer que tu les aimes en tout cas.
Je dis ça aussi parce que t'avais une série que j'aimais beaucoup. Sur YouTube, qui s'appelait Frères,
ouais.
Que j'ai tout regardé à l'époque.
T'as consommé un peu ?
Ouais, complètement. Vraiment, j'aimais beaucoup cette série. Et c'était avant d'ailleurs le spectacle.
C'était avant le stand-up.
C'est ça,
ouais,
si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Et ça, c'est aussi quelque chose qui, en tout cas pour moi aussi, peut-être t'as repositionné aussi sur autre chose, sur quelque chose peut-être de plus écrit, de plus joué aussi.
De plus sketch, ouais.
Exactement. Ouais. Ça, c'était quoi aussi ? C'était à un moment, t'as voulu faire. Parce que vous étiez deux à l'écran.
Trois même, on était deux à l'écran, mais trois avec Kaza qui est mon co-auteur aussi, que tu connais bien, hein, qui est réalisateur et avec qui je fais tout depuis 10 ans. Et, en fait, j'avais ce truc de... J'étais sur YouTube depuis longtemps et j'avais besoin de faire un autre format, en fait. J'avais besoin de sortir un peu de ce format face caméra, de sortir un peu de faire un truc beaucoup plus produit, entre guillemets, mais surtout beaucoup plus agréable dans le jeu.
Ouais.
Et en fait, comment Kaza il a réalisé ça, c'est qu'il a foutu trois caméras. Il nous a dit, ok, allez-y.
Ah, vous improvisiez ?
Non. On a eu des trucs d'impro, on avait des textes, mais en fait, il y avait très peu de découpage. C'est-à-dire qu'en fait, c'était presque un moment de théâtre filmé. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est ça qui nous a plu aussi. C'est qu'on avait, on avait une liberté de ouf. Et Vincent, avec qui je suis dans la série, est trop fort. Et en impro, il m'a fait décrocher 1 million de fois. Le but, c'était ça aussi. C'était qu'on se fasse décrocher, qu'on se fasse rire et qu'on s'amuse surtout. Et ça nous a beaucoup amusé de faire cette série.
Est-ce que YouTube, aujourd'hui, c'est encore un terrain de jeu pour toi ou c'est plus vraiment une plateforme sur laquelle tu penses être, parce que maintenant, t'es comédien, t'es sur la scène. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble un peu plus lointain aujourd'hui ?
Ça me semble plus lointain. Je dirais pas que j'y retournerai pas si j'ai vraiment envie de faire un truc qui me plaît. Après, je sais que la plateforme, elle a pris un tournant que j'ai pas suivi dans les formats qui se font aujourd'hui.
Ouais.
Je sais pas si c'est encore une plateforme qui est très adaptée pour la fiction, mais je pense que si je reviens avec le premier format que j'ai fait, le facecam basique podcast, vraiment le truc à l'ancienne. Je pense que potentiellement ça pourrait m'amuser de revenir sur ce format-là pour revenir vraiment aux bases à l'arrache, même pas forcément produit, juste vraiment à l'arrache, juste les gueublas, les blagues, blagues, tout ce qui compte.
Sauver quelqu'un dans la rue.
Ça dépend qui.
Non mais je dis ça parce que t'en parles dans le spectacle, ça.
Sauver Zemmour, ça dépend.
C'est pas ou pas, bonhomme.
C'est pas bonhomme. Moi, dans le spectacle, je parle d'une voisine qui s'est fait agresser.
Ouais.
Du moins, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais chez moi. Et ensuite, je suis allé voir ce qui se passait et je l'ai potentiellement sauvé d'une agression. Oui, c'est...
Non mais ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est aussi que tu racontes...
Que je suis terrorisé.
Voilà, c'est ça la
terrorisé
réalité.
Et j'ai pas envie d'y aller.
Et c'est toujours par rapport au code qu'on a, ce avec quoi on a grandi, t'y aller parce que tu sens que c'est la bonne chose à faire, mais que t'as peur en fait.
Bien sûr, tu regardes Mel Gibson dans L'Arme Fatale, je sais plus lequel c'est, je crois pas que ça soit le 3. Peut-être que c'est le 3. Et il va menacer un gars qui se comporte mal, je sais plus avec qui exactement, et il a zéro peur, il sait quoi faire, il est hyper fort en bagarre, machin. Moi, j'y vais, je sais pas ce qui va se passer. Et j'ai pas envie d'aller me battre. Personne n'a envie d'aller se battre, tu vois. Mais c'est ce truc de bon et mal, bonne et mauvaise pensée, tu vois.
Est-ce que t'es un peu habité par ça aussi, cette idée de bien se comporter, d'être une bonne personne ?
Bien sûr, mais tu vois, c'est intéressant. Et ça, je l'évoque un peu dans le spectacle, mais ça fera potentiellement l'objet d'un autre spectacle. Mais j'ai toujours eu ce truc de bien me comporter en fonction du regard des autres aussi. d'avoir peur du jugement, d'avoir peur d'être un peu jugé par les autres, etc. Et je me suis un peu éloigné de moi-même, je pense, sur plein de choses, et potentiellement passer à côté de choses. T'es faire les choses en fonction des autres, c'est jamais bon,
jamais... tu vois. Oui,
mais il y a un monde entre le dire et l'appliquer à la vie, aux petites décisions de tous les jours, tu vois. Et du coup, oui, il y a ce truc d'être une bonne personne, évidemment, mais rester soi-même d'abord et ensuite réfléchir à ce qui est bien ou mal, tu vois.
Jérémy Nadeau est notre invité jusque 23h. Je voulais aussi parler...
J'ai renversé de l'eau, pardon.
C'est vraiment pas grave.
Et si tu regardes sur mon pantalon, c'est pas de l'eau, c'est du pipi. Je me suis pissé dessus un peu.
Ok, c'est
tu
pas grave.
Tu pipi assis ou debout, toi?
Ça dépend de l'heure de la journée, de comment je me sens. Dans la nuit, je fais pipi assis.
Je comprends. Voilà. Je comprends. T'es confiant, mais pas ambitieux.
Exactement. Ouais. Et puis, à l'extérieur, je fais pipi plutôt debout.
Ok.
Il faut quand même que je sois en confort pour faire pipi assis.
Mais dans le salon, c'est moyen. Je préfère te le dire parce que mon pote l'a très mal pris la dernière fois. Donc moi, je fais pipi debout, Mehdi, t'es vraiment contre la table basse. Il y a le chat qui dort sur le canapé.
Si on revient sur toi, il y a quelque chose dont je voulais parler aussi. C'est que, oui, tu as fait un album pour accompagner ton spectacle l'année dernière, PTP, avec notamment un morceau, 9h de la night.
9h de la night, je suis en loge, baby.
Je suis en coulisses,
on va éteindre les lights. Prêt pour le love, baby.
C'est pas baby, c'est un public.
C'est pas ma soirée, c'est la tienne. Je vais faire brûler la scène jusqu'à ce que le micro saigne, baby.
Excuse-nous, monsieur Nord.
Je te promets qu'on va gonner toute la soirée.
Pendant au moins une heure.
Baby, je sais ce que je fais, je vais pas me foirer.
Je maîtrise mon karaté.
Chauffe-toi à venir, sois pas lazy.
Faut pas que t'aies la flemme.
Voir une salle remplie, ça me rend crazy.
Ça me rend fou carrément.
Donc c'était un album qui était là aussi pour accompagner et promouvoir le spectacle. Mais moi, quand j'entends ça, je vais te dire ce que je comprends.
Ouais.
Moi, je comprends quelqu'un parce que le morceau il sonne
je
bien.
Je sais ce que tu vas dire.
Je comprends quelqu'un qui a envie de faire
c'est
ça.
C'est au fond de moi, Maïzy, c'est au fond de moi.
Se dit, bon, je vais en faire une blague pour voilà, que personne ne me juge vraiment sérieusement. Mais en vrai,
mais
t'as
musique.
Un peu envie d'être ce mec-là.
Mais évidemment, évidemment. Et t'écoutes tous les morceaux de l'album, entre gros guillemets, parce qu'il y a 11 titres, ça fait 11 minutes, donc c'est assez court que pour un album. Et j'aurais pas la prétention de dire que c'est un album, mais oui, évidemment, tous les morceaux sont bien faits. J'ai bossé avec, j'ai bossé avec Piprod,
qui est un producteur
de Kik, etc.
Exactement. Kik maintenant, tout à fait, t'as raison.
Qui est un amour que j'embrasse évidemment. Et on a enregistré tout cet album de 16h à 2h du matin sur une seule session. Ouais. On a fait des petites pauses, etc. Mais ouais, j'adore ça. J'ai fait le conservatoire quand j'étais plus jeune. J'adore la musique et. Et oui, peut-être que j'écris des trucs dans mon coin et que je pose et que ça sortira jamais. J'adore, arrête, mais, tu me gênes.
Mais est-ce que tu...
Remets ton slip, qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi tu ne t'autorises pas à aller sur ce terrain-là alors que t'as fait des choses très différentes de YouTube, aujourd'hui jouer la comédie, être sur scène. Alors peut-être que tu y vois un lien plus naturel entre ces trois activités-là. Pourquoi est-ce qu'un jour tu ferais pas...
Mais parce
un album plus sérieusement.
Mais parce que pour l'instant, j'ai pas eu le. Je me suis pas dit, vas-y, t'es quoi, je me lance vraiment dedans en premier degré. T'as remarqué comme je réponds pas à ta question. Hein.
Ouais,
je reprends juste l'intitulé d'une manière différente. Non, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à ça. Je sais que j'aime bien et peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra et que je ferai un truc un peu plus sérieux. Il y a aussi ce truc de t'as déjà le syndrome de l'imposteur dans un truc que tu fais depuis des années. Là, me dire, vas-y, je respecte tellement la musique, je respecte tellement les rappeurs, les chanteurs, etc. pour me dire, moi aussi, je peux le faire.
Je comprends.
Mais même si je pense que je pourrais potentiellement bien le faire, j'ai un...
Ah. Ok, je vois. Sur la partie, en revanche, comédie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Enfin, t'es, comme on le disait avant de commencer, t'es comédien, t'as plusieurs projets. Je pense notamment à Fury que j'ai cité, à Cœur Noir, dans laquelle tu joues un soldat. C'est même quelque chose pour laquelle tu t'es vraiment entraîné, t'as pris 10 kilos, etc. Comment c'était ça, justement, peut-être de... Pour le coup, là, j'ai l'impression que c'est... comment dire, une expérience de comédien qui est vraiment différente de ce que tu as pu faire auparavant, qui n'est pas dans la comédie, qui est dans autre chose. Est-ce que là, c'est un moment aussi où tu t'es senti peut-être un peu plus sérieux dans cet exercice-là, où tu as senti que tu peut-être passais un cap?
Ouais, passer un cap de ouf, parce qu'en plus, j'arrive sur Cœur Noir, c'est mon premier vraiment gros projet. J'arrive avec des gros acteurs et actrices,
ouais,
et dans une machine qui est quand même un peu impressionnante, tu vois. Genre, je passe le premier casting. Un mois après, je passe le deuxième casting qu'on appelle le callback avec le réalisateur, etc. Je suis pris, donc en fait, à partir du moment où je suis pris, je me coupe les cheveux. Parce que j'avais les cheveux longs à
t'avais
l'époque,
cheveux
donc
longs,
je me coupe
ouais.
les cheveux. Je fais 3 mois de prépa avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Quentin Perrault, qui est coach et qui m'a préparé pendant 3 mois où je suis devenu beaucoup, 10 kilos en plus. C'est pas que du muscle, parce que 10 kilos de muscle, c'est très compliqué à prendre. Et ensuite, on se retrouve avec les acteurs pour faire la lecture des scénarios, etc. Et puis après, on se retrouve à côté de Bordeaux, dans un centre de forces spéciales, enfin une base de forces spéciales, et on est en entraînement 10 jours avec eux. Donc on apprend leurs déplacements, les maniements d'armes, leurs tactiques, etc. Ils nous transmettent un maximum de savoir. Et ensuite, c'est 3 mois au Maroc. Où c'est la première fois que je tombe dans un gros truc. Je pars au Maroc, on a des équipements, on a des camions militaires, il y a des trucs. Et c'est un peu impressionnant. L'avantage que j'avais avec YouTube, c'est que j'avais pas peur des caméras. Parce que c'est un truc que tu vis tous les jours quand tu te filmes, etc. Et la peur de la caméra, c'est un vrai truc qui peut te paralyser sur un tournage. Et en fait, ça s'est très bien passé. Très bien passé, je suis tombé dans un casting. Tout le monde était hyper gentil, hyper accueillant, etc. Et j'ai eu très peu ce syndrome de l'imposteur dont on parlait.
Ouais,
j'ai eu
un peu au début. En fait.
Je me suis senti très à ma place tout de suite. Et on rigolait énormément. On rigolait énormément, mais c'était un sujet très sérieux. On rigolait vraiment beaucoup. Et je pense notamment à Toufik Djalab et Victor Pontecorvo, qui sont les deux qui m'ont vraiment accueilli de ouf et avec qui je me suis très bien entendu. Et c'était cool.
Juste un peu auparavant, t'as cité Bruce Willis et c'était Mel Gibson, qui font partie des héros du cinéma d'action des années 80-90. En France, on n'a pas tant que ça, même si ça... que ça commence,
Arnaud
notamment avec les plateformes. J'allais dire exactement, non, je pensais pas Arnaud Ducret, moi je pensais à Alban Lenoir,
tu vois, en France,
premier degré, est une vraie égérie du cinéma d'action à la française, mais il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que toi, ton rêve, c'est peut-être de pouvoir incarner ça à terme, je sais pas, une forme d'action hero français, même si on n'en a pas encore beaucoup?
Bah, je sais pas si c'est un rêve, je pense que je pourrais endosser ce rôle d'action hero français, comme tu dis, mais moi, mon rêve, ça serait plus un Denzel. Ou de l'action.
Ça veut dire d'être capable aussi de faire d'autres choses et de pas être uniquement.
Et Denzel, il a fait très peu d'action. Il en a fait.
Je pense au Equalizer.
Equalizer, etc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très action. Mais même Training Day, c'est pas un film d'action.
Hein. Je suis d'accord.
Il y a quelques scènes où ça tire, ça se castagne un peu. Mais alors que Equalizer, oui, c'est un film. Ouais. Et encore, t'as pas, quand tu regardes, il y a pas énormément de scènes. On parle pas d'un AK, par exemple, tu vois.
Tout à fait.
Où là, vraiment, ça se tape un peu tout le temps. Mais j'aimerais bien, et même la carrière de Will Smith, tu vois, genre, c'est pas une carrière d'action, il a fait de l'action évidemment, bien avec sûr. les Bad Boys, etc. Genre, mais moi, quand tu me dis deux rôles que j'aurais adoré faire, c'est Denzel dans Training Day, et Will Smith dans The Suit of Legend, par exemple, tu vois.
Okay.
Alors Training Day, oui, The Suit of Legend, c'est pas un film exceptionnel, c'est pas un grand film.
Ouais. Mais il a marqué.
Mais il a marqué, et ce rôle, en fait, je le trouve incroyable, et l'idée de... Enfin, je sais pas, j'aime bien, pas forcément ce truc de héros d'action, mais... Ah, Denzel, qu'est-ce que je te dis?
Jérémy, je crois que tu vas beaucoup à la salle.
Ouais.
C'est vrai, tu fais du sport.
Oui.
Et je crois que tu es fan d'Eminem.
J'aime bien Eminem.
Quel est ton morceau préféré d'Eminem pour aller à la salle?
Oh putain.
Est-ce que t'en as un?
My Darling.
Alors, ça tombe mal, c'est pas celui que j'ai prévu.
Non.
Parce que moi, je vais pas à la salle, mais j'imagine que le meilleur morceau d'Eminem pour aller à la salle, c'est Till I Collapse, présent sur
Eminem Show. C'est comme ça qu'il l'a fait à la base, c'est moi qui ai fait la maquette.
Eh ben, il est bien ce morceau.
Ouais, il est bien.
Bon, moi je propose qu'on l'écoute.
Allez, vas-y.
Voilà. Eminem, Till I Collapse, présent sur The Eminem Show, album sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2002. Sometimes you just feel tired.
To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you the spirit.
Till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone collapse.
Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are
can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit till my bone color, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit till my bone color.
Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me smart, and it's absurd.
Till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high, I'ma rip this shit till my bone color. Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high, I'ma rip this shit till my bone color.
Eminem, T.I. Collapse, j'adore ce morceau et j'adore cet album, donc The Eminem Show, sorti en 2002.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et on est avec Jérémy Nadeau.
Et tu veux une anecdote sur ce morceau ?
Bah j'adorerais.
Bah moi aussi, donc si quelqu'un en a une, j'aimerais bien en avoir une s'il vous plaît.
Jérémy Nadeau qui est avec nous pour le spectacle Beaucoup Trop, donc que tu joueras le 3 janvier à Olympia. C'est la dernière date ?
C'est la dernière.
C'est sûr.
Après ce spectacle n'existe plus sur scène.
Ok. Voilà. Après, tu vas prendre une pause.
Une petite pause, des petites vacances, parce que ouais. Ça a été une année bien chargée, du merci, hein, mais ça a été une année. Il y a quelqu'un qui a dessiné un S avec les 6 barres là sur le. Il y avait une histoire avec ce S d'ailleurs, je crois.
Alors, on continue.
Ouais, non, après petite pause, et puis après, on bosse sur le deuxième spectacle.
Très bien. Ouais. Oui, donc ça, c'était déjà. Tu sais que ça va être ça la suite. T'as envie d'en faire.
Bien sûr, on est qu'au début là.
Bon, alors justement, on l'a dit, tu viens d'Internet et t'as réussi, avec succès, à aller sur une autre discipline.
Tu peux le redire.
Le cas. Avec succès.
Ouais, ouais.
Et ce qui n'est pas toujours le cas. Non mais c'est vrai, parfois c'est compliqué juste même de passer d'un genre à l'autre. On l'a dit, donc tu as fait plusieurs choses. Et je voulais avec toi parler de quelques profils qui, comme toi justement, ont réussi à dépasser Internet, à dépasser YouTube. Et je vais commencer en France avec un mec marrant. Un mec comme toi qui a commencé en faisant des blagues devant une caméra avec beaucoup d'énergie, c'est Mr. V qui donc dès le début, on sentait qu'il y avait une ambition qui dépassait un peu le sketch. Il a tout explosé grâce à ses vidéos, mais très vite, il a compris, je pense, qu'il pouvait jouer sur plusieurs terrains à la fois. Le cinéma, la scène avec le Whoop à l'époque, c'était aussi monté sur scène, mais surtout la musique.
J'arrive, je suis armé, comment monter négro. Bon j'avoue c'est pas vrai, je suis même pas du ghetto. Ton daron il a pas de cheveux, depuis qu'il a 8 piges on l'appelle monsieur. Il est tellement vu qu'il a une 4 chevaux, je connais bien les chevaux car j'ai la même queue. Ton cul c'est comme des ballerines, c'est plat et l'odeur dedans est horrible. Je ramène des meufs au télo, je les ken et je regarde Toy Story. C'est bien de faire des beaux clips, mais ça vaut pas le coup si c'est pas audible. Rien d'impossible, pas que des tout bob qui peuvent être tout bip.
Alors quand il sort W, son premier album, personne ne sait vraiment au début s'il fallait s'attendre à une blague ou un vrai projet. Et c'était pas une blague. Il devient un rappeur certifié, streamé, adoubé par une partie de la presse et par une partie du rap aussi. Et ensuite il y a eu le deuxième album MVP derrière, avec des feats crédibles et un vrai savoir-faire.
Mais qui est-ce qui sera sous la roue, ma Subaru, mon pire ennemi. Et dans mon âge, je consomme le pneu de mes Pirelli.
Donc ça c'est un extrait du morceau Pirelli avec Jules. On a quand même deux albums certifiés platine. Est-ce que toi t'avais aussi observé un peu ce passage, j'imagine, du Ivic à la musique?
Bah oui, j'avais observé parce que j'adore Ivic et j'adore ce qu'il fait depuis que je le connais. On a grandi sur Internet ensemble.
Ouais, avec Ivic,
tu vois. Et ouais, lui il a été certifié platine, hein, nous certifié plastique avec l'album BTP.
C'est vrai.
C'est toi qui m'as remis la certif d'ailleurs.
Je me souviens.
Non, évidemment, j'ai regardé ce qu'il faisait. Après, moi, pour faire ce que j'ai fait, je me suis pas inspiré de quoi
non,
que ce soit. Je me suis juste
c'est
dit.
Pas du tout.
Qu'est-ce
que. Je pense que des profils proches.
Oui, bien sûr,
vous
bien sûr.
Du même point, en
ouais,
fait.
Ouais,
et,
grave.
Et vous émancipez, en
ouais,
fait.
Ouais, bien sûr. Non, c'est évidemment que j'ai suivi de près ce qu'il faisait. Et puis, j'étais sincèrement content. En fait, sincèrement
ouais,
content
ouais,
de
ouais.
voir que ça fonctionnait ailleurs.
Et que c'est possible.
Et que c'est possible. Et qu'il était accepté vraiment ailleurs. Et non, c'est. Évidemment, c'est un super gars et il est très talentueux.
Je propose de parler d'un autre profil. On part dans une autre galaxie. Parce que si Mr. V a évolué, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Joji. Est-ce que ça te parle, Joji?
Bien sûr, Joji qui était streamer à la base, je crois.
Exactement.
Et qui a
littéralement changé de vie.
C'est fou.
Donc avant d'être Joji, il était Filthy Frank. Une créature du chaos sur YouTube. Déguisement, humour très border, vidéo absurde qui faisait des millions de vues. Et puis un jour, plus rien. Il efface le personnage, le met à mort et laisse apparaître une nouvelle identité. Joji, donc chanteur R&B, mélancolique, fragile, auteur de morceaux, énigmatique. J'adore ce morceau.
Ouais, c'est fort.
C'est,
hein.
Ouais, ouais, présent c'est fort. Sur l'album Ballade sorti en 2018. Et là, c'est un peu le choc. Tout le monde comprend que c'était pas une blague. Ce gars qui faisait des vidéos grotesques est aussi capable de faire pleurer le public. Son parcours raconte une vérité fondamentale. On peut être plusieurs personnes dans une seule vie. On peut faire le pitre pendant 10 ans et devenir un artiste majeur du R&B la décennie suivante.
Fuck my friends, they're gone. They all left one by one. And now the summer's done. They don't need no more fun. Yeah, I drive around on my own. I'm rich but my AC broke. Don't check no mail, no phone. And I tell them I'm not home. And I keep to myself. Fuck with no one else. And I know it's my fault, but I don't care. And I keep to myself.
T'aimes vraiment bien le R&B, toi?
Ouais.
Ça te parle,
hein? Ouais, j'aime bien, ça me parle. Mais moi, putain, je suis deg, j'ai grandi avec R. Kelly. Putain, qu'est-ce qu'il était fort, ce chien de la casse, là.
On peut plus l'écouter,
ah,
c'est terminé.
Quel dommage.
Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a forcément, nous, notre génération, on l'a beaucoup
bah
écouté
ouais.
à l'époque. Bah
ouais, et je n'écoute plus du tout de R. Kelly, du coup, mais ouais, il est fort. Heureusement qu'on a Monsieur Neuf, quoi.
Exactement, qui n'a rien à voir avec.
Et j'ai découvert R&B Boy. Mon Dieu, que
ouais,
c'est fort, hein.
Tout à fait. Donc, t'as un jeune artiste signé par Aya Nakamura,
okay,
d'ailleurs, R&B Boy, et qui a un énorme tube à l'heure actuelle.
Tu connais Booba?
J'ai déjà entendu parler, ouais, okay. Bien sûr. Ouais,
ça a pété, ça a pété.
Absolument, je crois que ça va marcher.
Avant, c'est de la force, après, c'est de la suce. Faut soutenir maintenant, les gars.
Et alors, là, je parlais de gens qui viennent d'Internet et qui ont fait de la musique, mais on peut aussi faire autre chose, même quand on veut s'affranchir de YouTube. Et on a un troisième exemple, d'ailleurs, elle était dans l'émission il n'y a pas longtemps, c'est Léna Situation.
Qui a ouvert un kebab.
Alors, entre autres, mais qui aussi...
Qu'est-ce qu'elle n'a pas ouvert,
un hôtel, elle avait ouvert un hôtel, donc
vrai,
en vrai,
c'est
quand même,
ouais.
On n'est pas loin. Mais donc, elle a commencé avec des vlogs, du lifestyle, du montage super dynamique, puis elle s'est mise à raconter des choses plus profondes. Internet lui a un peu servi de laboratoire, mais sa trajectoire explose, quand elle publie toujours plus, donc son premier livre qui devient numéro 1 des ventes et qui touche aussi un public qui ne la connaissait pas. Et donc là, maintenant, elle a même créé sa maison d'édition.
Et un extrait tout de suite du livre.
Non, je vais pas. Tu te rappelles ces émissions à l'époque où t'avais des gens qui lisaient des livres dans la nuit là. Mais c'est aussi, tu vois, autre chose, c'est un autre profil, ouais. Quelqu'un qui finalement, je pense qu'il y a aussi un moment, tu sais, où quand on a un petit peu commencé à voir des youtubeurs, des vlogueurs qui commençaient un peu à marcher, on n'imaginait pas forcément que c'était possible. Mm. Je me souviens d'une interview folle où on demandait à Natou qu'est-ce qu'elle voulait vraiment faire comme métier dans la vraie vie, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se pose plus cette question.
Non, on se pose plus cette question. Et c'est devenu même un souhait chez certains enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Maintenant, c'est ce métier-là qui est cité.
Exactement. Jérémy Nadeau, qui lui aussi vient d'Internet, qui fait plein de choses, est avec nous ce soir. Jérémy.
Ça groove dans cette émission.
Ah, c'est
t'es un groover, toi.
Moi, je suis un groover, ouais, bien sûr, j'aime le groove, j'ai ça dans la peau. Alors, plusieurs petits jeux pour toi.
Oh ouais.
On va essayer d'établir.
Il faut rester habillé.
Il faut rester habillé. D'établir le. On parlait d'action hero tout à l'heure, tu sais, de ces acteurs ou actrices d'ailleurs, mais bon, là, c'est beaucoup d'acteurs, car je crois que tu t'es identifié pas mal à ces hommes-là, qui ont pu représenter la figure ultime du mâle alpha dans ces films. Et je vais t'en donner plusieurs, tu vas me dire lequel pour toi est la figure ultime du cinéma d'action américain des années 80, 90. Je t'en mets deux à chaque fois, tu me dis lequel tu gardes et puis on garde le gagnant.
Okay.
Stallone ou Schwarzenegger?
Schwarzenegger. J'ai plus connu Schwarzenegger.
T'as plus...
J'ai vu Rocky très tard. Donc pour moi, à l'époque, c'est Schwarzenegger.
Schwarzenegger ou Mel Gibson?
Mel Gibson.
À direct.
À direct.
Qu'est-ce qui te plaît autant dans Mel Gibson?
L'Arme Fatale 3. Moi, c'est peut-être un des premiers films que j'ai vu dont je me souviens, avec Un Jour Sans Fin. Ou une histoire.
Il y a les deux. Il y a Une Histoire Sans Fin, c'est la science-fiction. Il y a Un Jour Sans Fin, c'est Bill Murray.
Non,
la journée qui se répète.
L'Histoire Sans Fin.
C'était un film qu'on regardait.
Avec
beaucoup.
Le dragon blanc, là. Le
exactement. J'étais un dragon gentil.
Ouais. Mel Gibson, évidemment.
Mel Gibson ou Harrison Ford?
Mel Gibson.
Ah ouais, Indiana Jones, non?
Non, après, bien après L'Arme Fatale.
Ok.
Moi, ça n'était pas le lien que j'ai avec L'Arme Fatale.
Non, non, je le découvre.
Ouais, bah, juge pas, frérot, alors.
Non, j'adore L'Arme Fatale. Mel Gibson ou Tom Cruise?
Mel Gibson.
Mel Gibson ou Denzel Washington?
Denzel Washington.
Ok.
Là, c'est le seul qui peut le sortir. Non, parce que Denzel, la carrière, est c'est un sans-faute. C'est un sans-faute et il a une... Tu vois, je pense qu'on dit qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas séparer l'homme de l'artiste pour Denzel. Quand c'est aussi positif du côté de l'homme, les discours qu'il a, Denzel, c'est aberrant. Genre, tellement il est juste, tellement il est sage sur plein de points. Denzel, tous les jours.
Denzel Washington ou Bruce Willis?
Denzel Washington.
Ah ouais?
Ouais, on aime Bruce Willis, on aime surtout, putain, on n'aime pas ce que la vie lui a réservé.
Malade,
hein, mais,
effectivement.
Mais ouais, Denzel, pour moi, il n'y a personne au-dessus.
Même dans, parce que, attention, le jeu, c'est la figure de la...
Ultime
du cinéma d'action.
Ah, du cinéma d'action.
Ah, c'était ça. C'est pas l'acteur que tu préfères, ça, c'est Denzel, je l'ai compris.
T'as vu comment j'ai été biaisé d'un coup par mon amour
Denzel,
pour Denzel?
Denzel, tu l'aimes
non,
trop.
Allez, Bruce Willis, parce que Die Hard.
Ouais.
Parce que Die Hard...
Die Hard, pour toi, c'est le... Film un peu, ton film d'action préféré?
Les deux sont... L'Arme Fatale et Die Hard, pour moi, c'est au même niveau de l'époque. Tu vois, moi, j'ai pas grandi avec Rocky, Rambo, etc.
Ouais,
moi,
ouais.
J'ai grandi vraiment avec L'Arme Fatale 3. J'ai commencé par le 3 et Die Hard 3. J'ai vu Piège de Cristal et 58 minutes pour vivre après.
Okay.
Mais Une Journée en Enfer, c'est un des premiers que j'ai vu.
Qui est à New York, donc.
Qui est à New York, avec une scène d'ouverture exceptionnelle. Et,
grandiose, et vraiment grandiose. Ouais. Bruce Willis, donc, ou Will Smith?
Ouais, Bruce Willis. Bruce Willis avec et sans calvas.
Bien
enfin,
sûr.
Avec et sans cheveux.
Oui,
Bruce
oui.
Willis, pour moi, il est né avec une calvitie. C'est quand le petit est né, il a des
ouais,
on se dit,
vraiment.
Ah, ça va pousser.
Parce que tu sais qu'il a été révélé par une série qui s'appelle Claire de Lune,
ouais.
Qui est très cool, et il avait des cheveux.
Oui, mais déjà une calvas.
Ça allait encore.
Ah ouais?
Ouais, franchement.
On n'était pas sur un petit Golf 18 roues là?
Non, ça allait. Non, franchement, c'était globalement pas trop parsemé.
Okay. Le Bruce Willis sous Calvin Klein, il est difficilement testable.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as un Die Hard préféré?
Le 3.
Le 3, toi, c'est le 3 parce que tu l'as commencé.
Parce que c'est celui que j'ai découvert.
Bon. Est-ce qu'on peut sortir Bruce Willis à ton avis? Ou c'est impossible?
On peut sortir?
Est-ce que quelqu'un peut le battre à ton avis?
Bah, si tu parles du cinéma d'action.
Ouais.
Jackie Chan.
Ah, alors je l'avais, mais je savais pas. Ok.
Ah,
Jackie
oui,
Chan pour
Jackie
toi.
Jackie Chan, évidemment.
Ça, il... plus
mais
fort
pour
que
moi, il y a très peu de meilleures comédies d'action. Allez, il peut y en avoir évidemment que Rush Hour.
Rush Hour
avec tous les problèmes qu'il y a dans ce film.
Oui.
Mais Rush Hour est exceptionnel. Et puis Jackie Chan, en fait, dans tous les films qu'il a fait,
qui est
exceptionnel. Mais j'ai plus d'affect avec Bruce Willis.
Donc Bruce Willis
s'organise en ce classement,
du cinéma d'action.
Ouais, je pense. Pour moi, en tout cas.
Je suis sincèrement d'accord avec toi. Même si j'aurais mis Harrison Ford un peu plus haut, moi. Parce que j'ai un affect très fort avec Indiana Jones.
Je comprends.
C'était une question générale. Je suis un peu plus vieux que toi.
Mais tu sais quoi, mon cœur reste ouvert.
Eh bien, ça me fait plaisir.
Voilà.
Et bien, puisque tu parles de ton cœur qui reste ouvert, je propose d'écouter une chanson qui va justement réchauffer nos cœurs tout de suite.
Cariste, bouchon liège.
Non, un artiste qui s'appelle Obong Jayar. Je sais pas si tu connais.
Bien sûr.
Eh bien, je te régale alors.
Bien sûr.
Eh bien, on s'écoute tout de suite le morceau Give Me More de Obong Jayar, morceau qui est en playlist sur France Inter.
Am I your first position? You say I'm all you're needing, then you just come up missing. Keep it consistent with me, baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees, I can't keep going like this. Give me more, I need more. 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 Give me more.
me your full attention, don't leave me alone. Waiting on you to come, checking my phone. You only call me when you get lonely. You only call me when you get lonely. Did you mean the words that you said? They go round and round in my head. Am I what you want? I need love that come with intent. Maybe I can't settle for less. I know what I'm worth. Give me more. I need more.
C'était le morceau Give Me More de Obong Jaya.
Mehdi Maizi sur France Inter.
C'est ma daronne qui fait les bacs.
Elle fait tout.
Elle fait tout.
Elle sait faire tellement de choses. Jérémy Nadeau est avec nous. Le spectacle à l'Olympia le 3 janvier prochain avant une pause bien méritée. Et en attendant, j'ai demandé des recommandations. Et tu m'en as donné plusieurs, notamment un album que j'adore. Un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ino Casablanca et l'album s'appelle Extasia.
Pas besoin de te cacher, derrière des traits sera du sol. Je serai là dans tous les cas, ma rêve. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher, derrière des traits sera du sol. Oh là la vie, quitte-les, non. Pas besoin de te cacher, derrière des traits sera.
Alors c'est le morceau Quitte-les. Ça fait, je pense, 15 fois qu'on le joue dans cette émission. Qu'est-ce qui te plaît autant chez Ino Casablanca ?
En fait, il l'a dit lui-même, hein, et je crois que c'est le premier morceau de son ancien album. Il dit nouveau groove. Écoute le clavier, là.
C'est exceptionnel. Ah, ça part en compas.
Ça part en compas, de ouf. Ah, j'adore.
Grandiose.
Non, en fait, il arrive avec un nouveau truc, et il le dit, et il s'en vante à juste titre. Il dit, j'arrive avec un nouveau groove. J'arrive avec une nouvelle façon de poser, ouais. Une nouvelle mélodie, un nouveau style et tout, et... Le truc de dis ma rêve.
Donc dis ma rêve, c'est un autre morceau. Ouais.
Dans Parapluie, par exemple, qui est le son avec lequel j'ai découvert, tu vois, il arrive avec un truc de flegme, de nonchalance et tout, qui est hyper maîtrisé. Et après, il peut faire un truc kitlé qui a rien à voir. Et il a un autre son dans cet album qui s'appelle Blakely, je sais plus exactement.
Il est en
feat avec une meuf qui est géniale et le son est incroyable. Et en fait, c'est encore un autre style, vraiment.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'il peut pas faire,
mais c'est aussi
Ino Casa qui l'arrête, j'ai envie de te dire.
Non, mais j'ai aussi le sentiment que ça fait partie de ces artistes-là qui aujourd'hui mélangent plein de choses, qui se posent. Ouais. Pas les questions.
Et parce qu'il a grandi avec tout ça en fait.
Exactement.
Et il s'est dit, et c'est un privilège qu'on a aussi certains artistes, c'est de dire j'ai envie de le faire, je le fais, qu'est-ce qu'il y a. Et c'est un album qui va être décousu parce qu'en fait il y a tous les styles que j'ai envie de faire, je vais les faire. Et il est trop fort. Il est trop fort.
Tu nous as conseillé une série, Snowfall.
Oh mon dieu. Ouais.
Qu'est-ce qui te.
Oh, cette série elle m'a giflé. Et c'est quoi ? J'ai été pris par TikTok, je suis tombé sur un edit de cette série.
Ok.
Et j'ai dit, c'est quoi ce charisme de fou ? Donc l'acteur, c'est Damson Idris.
Damson Idris, qu'on a pu voir dans F1, notamment.
Dans
F1,
au passage, ouais, exactement. Et qui avait fait un épisode de Black Mirror aussi, que j'ai découvert. Okay. J'ai découvert que c'était lui après l'avoir connu, tu vois. Et Snowfall, en fait, je regarde ce truc, je vois les dits de TikTok, je me dis, ah vas-y, je suis un Yankee, vas-y, je vais voir la série, tu vois. Canal, je lance le premier épisode, c'est bien. Deuxième épisode, c'est bien. Et six saisons. Et six
comme
saisons.
Ça, tu te les as mangés.
Et j'ai tout mangé, tout est bien, ça joue bien, c'est bien écrit, c'est bien réalisé, la BO est incroyable, vraiment, c'est. Non, c'est trop bien.
Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, parce que tu parles de TikTok, est-ce que tu lis un peu tous les commentaires? Est-ce que tu arrives à te désengager de ça, ou est-ce que ça fait partie aussi de ton job, et pour toi, ça fait, tu dois aussi être présent?
Je le fais dans la limite de la préservation de ma santé mentale. Je passe beaucoup de temps, et d'ailleurs, c'est un truc que je règle en ce moment, c'est que je passe trop de temps sur les réseaux, en tant que consommateur. Et consommateur un peu le doomscroll qu'on connaît, hein, le consommateur un peu yeux dans le vide et temps d'attention de 3 secondes. Et les commentaires, en fait, j'essaie de répondre aux gens parce que je sais que c'est cool d'entretenir un lien, et moi, ça me fait plaisir de répondre aux commentaires, etc. Je passe pas trop de temps à lire les commentaires parce que, mais ça, je m'en suis détaché à l'époque de YouTube déjà.
Ouais.
Un commentaire négatif
qui te fait
prendre
journée.
La place sur 500 commentaires positifs, et du coup, je laisserai pas ce pouvoir aux gens de m'atteindre dans les commentaires.
Ok. Voilà.
Même si j'ai quand même, de ce que je vois, très rarement des très mauvais commentaires.
Oui, mais parfois un mauvais, ça peut te... Ouais. C'est ça, en fait, il suffit parfois d'un seul.
J'ai vu un commentaire d'un... Parce qu'après, je suis allé voir le profil, évidemment, parce que je suis une petite merde. mais d'un daron de 60 ans qui me disait « Pardon, mais faudrait peut-être se réveiller avant de tourner une vidéo, parce qu'en fait, au début, je me frotte les yeux, genre... » Et j'avais envie de dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Mais j'ai pas répondu.
Non, il faut pas.
Et pareil,
t'es forcément
pour les messages,
perdant si tu réponds.
Je suis forcément perdant, ouais. Et ça m'apporte rien, tu vois.
Jérémy,
bonsoir.
C'est l'heure de la question qui tue.
J'ai hâte de pas y répondre.
Normalement, tu fais ce que tu veux, mais ça m'arrangerait que tu y répondes quand même. Aujourd'hui, tu fais de la scène, t'es un humoriste à succès, mais t'es aussi un fan de rap, donc t'es aussi dans une forme, tu sais, de... T'aimes le sport, donc t'es dans une forme de compétition aussi. Qui est pour toi le ou la meilleure sur scène, en stand-up, en 2025, dans ce pays?
Je dois en choisir qu'un ou une?
Non, tu réponds ce que tu veux. On a un petit peu de temps.
Il y a plein de il y aurait plein de bonnes réponses. Moi, j'ai un affect particulier pour Roman Frécinet, qui est pour moi un des, parce que il a une façon de réfléchir qui est très différente. Mais en vrai, pour moi, si on doit vraiment dire qui est le meilleur aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens, en France en tout cas, très peu de gens au-dessus de Farid.
Ok.
Voilà.
Qu'on a reçu la semaine dernière, d'ailleurs.
Ouais, pour moi, pour l'écriture, et Panayotis très fort aussi, mais je connais beaucoup mieux ce que fait Farid dans l'écriture et dans le jeu. En fait, Farid, il a débloqué un truc de jeu là, ces dernières années, où il interprète vraiment sur... C'est trop fort. Il est injouable, Farid, pour moi.
Tu vas beaucoup voir d'autres spectacles aussi, justement?
Non, très peu.
Très peu?
Très, très peu.
Par peur peut-être aussi d'être inspiré, ce qui peut être naturel?
Non,
ou...
en fait, l'inspiration, c'est pas ce qui me fait peur si je vais voir un autre spectacle, c'est juste t'es tellement baigné dedans tout le temps que ouais. J'ai du mal à y aller et à être simplement spectateur. Tu vois, je vais me dire, ok... Là, il a fait ça comme ça,
okay,
c'est intéressant. Je vais pas profiter du moment, ouais. Tu vois. Genre, je vais avoir du mal, je pense, à être complètement... Je suis parti voir un pote en spectacle, là, il y a pas longtemps, et j'étais dans l'analyse de... Il va vouloir que je lui fasse des retours, donc qu'est-ce que je peux analyser de ça? Et du coup, je profite pas vraiment du spectacle, donc non, je vais voir très peu de spectacles.
Est-ce que t'as aussi une grosse culture de ce qui se fait aux États-Unis ou dans d'autres pays? Tu regardes aussi, ou un peu?
J'aurais
moins...
pas la prétention de dire grosse culture, mais je regarde évidemment ce qui se fait, ouais, bien sûr, j'essaie de suivre un peu ce qui se fait, ne serait-ce que pour... c'est intéressant, alors tu parles d'inspiration, mais c'est intéressant de voir comment ils construisent les blagues, par exemple, comment ils construisent, à quel moment il met son moment de jeu, à quel moment il met son contre-pied, par exemple, s'il y a un truc. Donc ouais, j'essaie de voir ce qui se fait un peu. Moi, je suis un gros, gros fan de Kevin Hart aux États-Unis, et du coup, ouais, régulièrement, je revois un peu des trucs de Bill Burr, de Bennett Morin, de Chris D'Elia, de plein de mecs comme ça, tu vois.
Jérémy, c'était un plaisir.
Oh bah ouais.
De t'avoir aujourd'hui.
Là, on a fait ça à la régulière, j'ai l'impression.
Bah, je crois bien qu'on a été régulier, ouais. Il me semble. Merci beaucoup. En tout cas, on rappelle donc que ton Olympia, c'est le 3
janvier. 2026,
dernière représentation de beaucoup trop. En attendant la suite, un deuxième spectacle, tu l'as dit. Puis on te verra aussi dans d'autres choses, évidemment dans de la fiction, parce qu'il y a des choses, je crois, qui arrivent.
Qui arrivent début d'année prochaine.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Jérémy, vraiment, et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui a été préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, une émission réalisée par Guy Guillaume Giraud. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Mathias Alléon. Merci aux équipes web et vidéo. On se retrouve demain avec Dinos. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.